invasion. We're living in a strange time. Well, I see dangerous vision. Should I run or should we walk? Should we dangerous vision. We're living a strange kind of time. Should we run or should we walk or should we climb? Oh. Well, I wanna ask. But you already know.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Et c'est Jeudi Noir, donc, pour une de ces émissions bimensuelles, je crois qu'on dit comme ça. Donc, voilà, nous avons... vous venez d'entendre, excusez-moi, un album, enfin, un morceau de Kim Foley, un rocker américain un peu bizarre. Donc le titre de l'album c'est Animal God of the Streets et le titre du morceau c'était Dangerous Visions, donc des visions dangereuses, et pour ceux qui parlent pas du tout anglais, et sinon c'est un peu ridicule. Et autrement, ben, ce soir nous allons vous parler, enfin Jean-Mathias va vous parler de deux livres. Un livre qui est sorti il y a quelques années déjà,
l'année dernière
2013, avril 2013, donc de Franck Burbage, un prof de philo, un livre qui s'intitule Philosophie du développement durable. Ça a été édité au PUF, Presse universitaire de France, dans la petite collection Philosophie. Et puis un livre de Fabrice Flippot, Nature et politique, sous-titré Contribution à une anthropologie de la modernité et de la globalisation, aux éditions Amsterdam. Donc ce soir, on va manger du verre.
Pardon. Ça, pour en manger, ça va.
On va manger. Ah bon, mais je pense que c'est des questions intéressantes parce que l'écologie ne remporte pas vraiment de succès électoromassif, mais néanmoins elle est partout et on peut se poser des tas de questions à son sujet, du type est-ce que ça peut être un projet politique autonome, est-ce que c'est un projet politique compatible avec le capitalisme, et tout un tas d'autres trucs. Est-ce qu'on peut être écologiste sans être autoritaire aussi? Type, jette tes bouteilles dans telle poubelle et pas dans telle autre. Voilà, enfin, moi, je suis pas sûr que... Enfin, je suis pas sûr d'avoir les réponses à toutes ces questions, bien évidemment. En revanche, ça peut être intéressant d'en discuter. Alors, par quoi est-ce que tu voudrais partir de quelle...
Peut-être deux choses. D'abord, comme tu dis, bon, y a tous ces débats qui se posent. D'abord, une petite présentation un peu personnelle du choix. Les questions qui sont relatives à l'écologie politique, bon, elles m'intéressent moins depuis un certain temps, mais je trouve qu'elles prennent une actualité encore un peu plus forte en ce moment, dans la mesure où si on prend le paysage politique français actuellement, il me semble qu'un des trucs politiquement le plus intéressant depuis en gros les dernières présidentielles, c'est ce qui se passe autour de Notre-Dame-des-Landes, où on a une mobilisation qui là politiquement est riche. Alors bon, je sais pas exactement dans quel sens ça va aller et ça va évoluer, mais ce qui est sûr c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Il s'agit pas de focaliser uniquement sur des choses qui sont aussi mises en avant pas mal dans les médias, mais de fait pour tous les échos et toutes les informations qu'on peut avoir sur cette lutte là, c'est quelque chose qui justement remet en avant un certain nombre de questions sur les rapports entre l'écologie et la politique, pas seulement, mais aussi. Donc ça me paraît, vu que l'espèce de désert de lutte dans lequel on est depuis quelques mois et quelques années maintenant, parce que ça commence à se compter en années, c'est pas forcément inutile d'aller regarder tout particulièrement de ce côté-là en ce moment. Alors, après, sur le choix des deux bouquins. Je vais surtout parler en fait du bouquin de Flipeau, La nature et politique, qui vient d'être édité chez Amsterdam. Je vais parler davantage de ça plutôt que du bouquin de Burba. Je vais dire tout de suite pourquoi. Alors, c'est des livres que je vous propose ce soir parce qu'ils méritent d'être lus, je pense. Et en même temps, c'est des livres qui ont chacun dans leur genre de très gros défauts. C'est-à-dire que je ne suis pas un enthousiaste forcené ni de l'un ni de l'autre. Même si on apprend beaucoup de choses et même s'ils permettent de se faire une idée sur un certain nombre de débats et de références intéressante sur ces questions-là. Le livre de Burbage, Philosophie du développement durable. Alors, il est beaucoup plus, orienté philosophie, réflexion philosophique que l'autre, qui est plus politique. En même temps, celui de Burbage, il est mieux écrit, à mon avis, plus clair. On sent que c'est effectivement très didactique. C'est un prof de prépa. Bon, donc voilà, donc c'est agréable à lire. C'est très érudit. En même temps, ça se lit facilement. C'est assez fin. Le problème, c'est que c'est aussi un peu rhétorique. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur des questions un peu de fond, notamment sur l'articulation des soucis liés à l'écologie et des engagements politiques et des mesures politiques, là, ça devient un peu flou, à mon sens. Et surtout, en fait, il me semble que il est assez représentatif, ce livre-là, d'une approche qui, dans l'écologie politique, c'est là où c'est compliqué, a tendance à tirer un peu les questions écologiques du côté d'une forme d'éthique ou de morale un petit peu générale. Si, en fait...
Donc là, on quitte complètement le terrain politique.
Alors, tu le quittes pas complètement parce que Burbage a un engagement politique et il essaye de lier ça, effectivement, dans à des questions politiques, à des mesures politiques, à des critiques politiques. Mmh. C'est pas une éthique hors sol, complètement idéaliste sur comment prendre soin de son jardin, de ses déchets et de son corps et voilà, non, c'est pas ça, c'est pas une éthique individualiste en ce sens-là, elle a des implications politiques, mais il me semble que sa conclusion, ça revient quand même à dire que finalement, les préoccupations qui sont liées à la durabilité du développement, est-ce qu'effectivement il y a un développement durable qui est possible, sont finalement des questions qui sont l'horizon dans lequel on vit, en fait, et dans lequel se prennent les décisions politiques aujourd'hui, dans lesquelles elles doivent se prendre, qu'on soit pour, contre, qu'on admette ou pas ce paradigme-là, qu'on le critique, qu'on prenne ça au sérieux ou pas. C'est un fait, d'après Burbage, que de toute façon, cette question de voir comment le développement économique, social, qu'on va construire ou qu'on construit, qui se construit, même si on est encore plus prudent que ça, comment il est soutenable, cette question-là, finalement, elle est partout, elle est en tête de tout le monde, qu'on le veuille ou non, et elle a une dimension, d'après lui, qui finalement est une dimension éthique, c'est-à-dire qu'il s'agit de voir, de s'interroger sur la manière dont l'humain, au sens large, peut sur l'avenir de l'homme, en quelque sorte, on va dire, de manière très très générale. Alors, il y a une petite déformation professionnelle, à mon avis, c'est-à-dire qu'on va tout de suite sur des choses très très abstraites, qui est peut-être une déformation professionnelle liée au fait que, c'est un enseignant en philosophie, c'est un raccourci, ce que je dis là, mais il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on arrive tout de suite à des choses qui sont extrêmement abstraites, qui sont pas tellement tranchées du point de vue des mesures politiques ou du point de vue des critiques ou des arguments, ça manque un peu de percussion, à mon avis. Bon, ça a le mérite d'être honnête et intéressant, donc je le signale quand même, cette philosophie du développement durable là, qui apprend pas mal de choses. Et j'en viens donc.
En même temps, il essaye de faire un sale coup, là, d'après ce que je comprends.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, en gros, qu'un parti écologiste quelconque, en même temps qu'on joue ce jeu-là, gagne ou perde, ce qu'il est en train de dire, c'est que les écolos ont gagné. Parce que le cadre de pensée,
l'agenda,
la décision politique, l'agenda sera écologiste.
L'agenda, il est écologiste. Alors, il est écologiste au sens où il pose la question du développement durable. Après, tu peux avoir un positionnement, tu peux te positionner, d'après lui, face à cette question du développement durable, de manière qu'il ne soit pas écologiste. En disant que t'en as rien à foutre et qu'après tout, l'humanité est libre de se suicider et que tu peux avoir une... Mais la question, effectivement, c'est l'agenda politique d'aujourd'hui et de demain, et pour un bout de temps, d'après lui. Bon, donc voilà, plein de choses intéressantes. Donc je veux pas rentrer dans le détail de ce bouquin-là, parce que celui qui m'intéresse davantage, c'est celui de Flipeau. Alors, celui de Flipeau, c'est un autre genre, c'est-à-dire que c'est aussi un livre de philosophe, c'est pas forcément un compliment. Il a des mérites, il a aussi de très gros défauts, c'est-à-dire qu'il est assez inégal, ce livre-là. Il mérite d'être lu quand même, c'est pour ça que je m'en parle, parce que sinon je vous en parlerai pas. Mais donc, Nature et politique, alors le sous-titre, et tout de suite vous met dans l'ambiance, contribution à une anthropologie de la modernité et de la globalisation, rien que ça. Donc on est un peu, on alterne entre une bibliographie, une enquête bibliographique très détaillée et qui pour le coup est très instructive. C'est-à-dire que il se prend ce Fabrice Filippo là, il prend finalement tous les auteurs et tous les mouvements de pensée qui d'une manière ou d'une autre peuvent être mobilisés pour poser des enjeux écologiques dans le débat politique. Alors,
c'est un vaste programme.
Alors, c'est un vaste programme, c'est même un labyrinthe complet, c'est-à-dire qu'effectivement, il est question aussi bien de Marx, d'Illich, de Polanyi, de Rizet, des situationnistes, de René Dumont, des critiques de la technique chez Heidegger, de Kropotkin, de Moscovici, de la psychologie, de voilà. Donc vraiment c'est alors là vous avez je sais pas si c'est exhaustif, je pense pas, ça il y a plus de chances que ça le soit, mais alors vous avez vraiment pour le coup un passage en revue de tout ce qui peut être mobilisé, de tout ce qui a pu être mobilisé, on va dire, hein, dans une perspective écologiste pour poser pour réfléchir aux enjeux politiques de ces questions. Alors, de ce point de vue-là, c'est pas inintéressant parce que du coup, on peut apprendre des choses. C'est parfois un petit peu long, c'est assez fastidieux, c'est-à-dire que voilà, il y a des détours par des généralités qui sont pas forcément utiles, mais ça a le mérite au moins d'essayer de clarifier un débat qui, alors, pourrait être confus, comme c'est pas permis. Alors, il y a un autre point intéressant et qui intéressera les auditeurs, c'est que, et ça, je pense que c'est assez juste, pour le coup, son point de départ est assez juste, c'est qu'il dit que finalement, l'écologie politique est une espèce d'ovni qu'on n'arrive pas à saisir, à situer à droite ou à gauche, du côté des libéraux, du côté des libertaires. Ça glisse à chaque fois, effectivement, qu'on cherche une définition précise des enjeux et de la situation politique de ce mouvement-là, parce qu'il dit que finalement, c'est une espèce de rencontre un peu improbable entre deux ovnis politiques antérieurs, qui sont l'anarchisme et le centrisme. Et qu'en fait, l'écologie politique est au carrefour de ces deux mouvements-là, d'après lui. Au carrefour, en tout cas, c'est la rencontre de ces deux mouvements-là. Et vu que ces mouvements-là ont très peu intéressé les politistes, que ce soit l'anarchisme politique ou le centrisme politique, qui est assez juste, je dois dire. C'est vrai que le centrisme est toujours pensé comme inexistant, comme le nini, quoi. Mmh. Et jamais pensé en tant que tel. Il dit, comme effectivement, on trouve dans l'écologie politique des gens qui viennent des gens concrets qui viennent de ces deux traditions-là, des idées qui viennent de ces traditions-là, des éléments programmatiques qui viennent de ces deux traditions-là, qui elles-mêmes n'ont été théorisées finalement par pas grand monde, il n'est pas étonnant finalement qu'on n'y voit pas clair sur ce qu'il en est de l'écologie politique. C'est pas forcément faux. Alors c'est parce que bon, en même temps c'est pas fondamentalement original. Il part de ce constat, la fameuse autodéfinition là par Cohn-Bendit de l'écologie politique comme un mouvement libéral libertaire. Donc effectivement, c'est un mouvement libéral et libertaire, alors avec toutes les ambiguïtés que ça peut comporter. Et concrètement, dans l'histoire politique, les libéraux ils sont plutôt au centre et les libertaires ils sont plutôt du côté de l'anarchie politique, quoi. Alors donc voilà, c'est pour vous situer ça de manière très très générale. C'est un livre qui brasse beaucoup les ismes, voyez, le marxisme, l'écologisme, beaucoup de ismes, donc c'est un petit peu jargonnant. Alors, il y a quatre parties dans ce bouquin-là. Alors, je sais pas, on va en parler peut-être de manière un peu libre comme ça. Je vous présente un petit peu les quatre grandes thématiques. Son souci à lui, c'est d'essayer de situer un petit peu ce qu'il appelle les lieux de controverse autour de l'écologie politique. Alors, il voit quatre lieux de controverse. Du coup, effectivement, c'est assez complet. Il y a d'une part, c'est le point de départ, c'est à mon sens la partie la plus intéressante, c'est tout ce qui tourne autour de la question des droits de la nature. Est-ce qu'on peut parler de droit de la nature, d'une valeur intrinsèque de la nature, qui donc lui donnerait, en un sens quelconque, des droits?
Un statut de personne.
Alors, c'est plus compliqué, parce que c'est pas forcément un statut de personne direct, mais ça peut être un statut de bien associé à une personne. Bon, donc voilà, il essaie de clarifier ces questions-là. Et ça me paraît être le plus convaincant du bouquin, dans la mesure où il essaye, dans cette partie-là, de chercher les voies par lesquelles, du coup, on pourrait porter des revendications écologistes, justement, dans le domaine du droit. Alors là, on peut voir effectivement des traductions politiques possibles, des enjeux politiques possibles. Il réfléchit notamment sur la manière dont on peut articuler l'idée de droit de la nature à l'idée de droit de l'homme, par exemple. Et l'idée, donc, du coup, de l'écologie politique comme une espèce de projet d'extension des droits humains, en fait. Hein, comme si, effectivement...
Ouais, mais ça semble un peu complexe, ça, comme affaire. Parce que,
c'est pas simple. C'est
parce
pas
que
simple.
Notre droit, tout notre droit est pensé quand même globalement à partir du droit romain.
Bien sûr, sur la distinction.
Du pouvoir absolu sur les choses que l'on possède. Et puis après, il ajoute à ça le côté chrétien, c'est-à-dire la nature nous est donnée en,
bien sûr.
À exploiter, ouais. etc., etc., ouais. par un dieu ouais. ou un autre barbu quelconque.
Ouais.
Et c'est étrange parce que avec le droit du propriété, tu as le droit d'abus, etc., etc. Donc, ouais.
Bah, alors, là, il y a des pistes intéressantes donc, là-dessus, notamment parce que ce qui est assez juste comme remarque, c'est l'idée, effectivement, comme tu dis, pourquoi c'est intéressant comme question ? Parce que toute la tradition et toute l'histoire du droit, elle repose sur la distinction entre personne et chose, entre chose et personne, et qu'effectivement, qui vient du droit romain, ça, c'est pas nouveau. Et donc, effectivement, la personne, c'est celle qui peut disposer de la chose. Point. Hein, on a ce point de départ là. Donc, alors après, la question de savoir où on fait passer la frontière entre personne et chose, évidemment, alors là, elle a une longue histoire.
Par oui, surtout exemple, que cette problématique romaine, si on emploie Graeber, dont on avait déjà parlé, elle vient de la distinction maître-esclave.
Bien sûr.
Avec tout le problème que les Romains rencontraient en essayant de traiter une personne comme une chose. À la limite, ça pourrait être. Peut-être qu'on pourrait retranscrire les problèmes des Romains.
Oui, c'est pas exclu.
À partir de l'esclave sur la nature. Quoi.
De toute façon.
Qu'on fait de cette chose qui n'est pas tout à fait une chose.
Exactement. Et tout le problème, il est là. C'est qu'effectivement, si tu la nature, est-ce que la nature peut être définie comme une chose, comme du mobilier, quoi, comme une chose mobilière. C'est ça en fait l'enjeu au niveau juridique. Et lui, il présente donc un certain nombre de tentatives qui sont faites et qui sont pas inintéressantes. Alors après, est-ce que c'est concluant ou pas ? Moi, je suis pas spécialiste de ces questions-là. Mais c'est vrai que j'ai pas vu ça ailleurs pour l'instant. Donc toutes les tentatives qui sont faites justement pour montrer que la nature ne peut pas être considérée comme une chose mobilière dont l'homme pourrait disposer à loisir, dans la mesure où sa survie, petit 1 dans certaines versions, son plein épanouissement, etc., etc., sont tributaires de la nature en question.
Ouais.
Tu peux faire piquer ton chien, tu peux pas faire piquer la planète dans laquelle tu vis. Enfin, tu peux le faire, mais après...
Tu peux l'irradier totalement.
Voilà, ça n'a pas exactement les mêmes conséquences en termes de... voilà.
Pour le chien, si.
Pour le chien, oui. Pour le chien, oui. Et pour certaines personnes. Bon, enfin, j'entends pas. Donc, alors, il y a ce premier aspect, ce premier lieu de controverse. Donc ça, je conseille. Je conseille la lecture parce que ça me paraît intéressant. Notamment parce qu'il se paye, alors, sa biblio est assez axée sur la production française. Donc un de ceux qui se payent, c'est évidemment Luc Ferry et son bouquin sur le nouvel ordre écologique, qui est donc d'après lui, voilà, qui regroupe un peu la machine de guerre libérale et humaniste contre l'écologie politique. Bon, on peut pas être soupçonné de sympathie pour Luc Ferry ici, donc ça peut pour plein de raisons, on va pas
rentrer dans les détails.
Force est de constater que les arguments qu'il oppose à Ferry sont plutôt intéressants. Hein.
Alors Ferry, quand même, ancien ministre de l'éducation, philosophe de salon,
mais en même temps, effectivement, porte-parole du libéralisme politique, vernis universitaire, discutable, mais pas complètement inexistant. C'est un penseur libéral de droite, c'est un libéral républicain de droite, quoi. Voilà, ancien ministre de Raffarin. Voilà. Et donc effectivement un anti-écologiste déclaré, et pas simplement sur le mode allègre qui dit que le réchauffement climatique il a rien vu et que lui il trouve qu'il fait plutôt chaud.
Il fait plutôt frais d'ailleurs dans sa cuisine. il le constate tous les matins sur son thermomètre, il n'y a aucun souci.
Donc ça c'est la version un peu caricaturale à l'allègre. C'est pas le cas de Ferry. Ferry il argumente un peu plus, et son bouquin sur effectivement le nouvel ordre écologique, il a cet intérêt aussi qui pointe un certain nombre de menaces et de critiques qui sont régulièrement adressées aux écologistes, c'est-à-dire la tentation d'une espèce d'écofascisme autoritaire, l'anti-humanisme qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi valoriser la nature au détriment du développement humain ? Hein, pourquoi mettre des limites a priori au développement humain au nom de la nature, voilà, effectivement. Bon, il s'inscrit dans une modernité libérale qui est celle de l'individu, du développement de la technique, du progrès des sciences, et voilà, des libertés individuelles que a priori rien ne doit venir borner, et surtout pas chose comme la nature représente une espèce de régression à une période antérieure où on considérait que la nature était animée, avait de la valeur en tant que telle, et ça évidemment on n'en veut pas parce qu'on en est sorti et puis qu'on va pas se remettre sous la coupe d'une conception obscurantiste de la nature. Donc ça c'est la version réactionnaire, et puis la version réactionnaire encore pire, c'est donc l'écofascisme au nom d'une nature extérieure qui viendrait mettre des normes et des limites à nos comportements. Du coup voilà, on crée une nouvelle forme d'autoritarisme politique. Et alors, ce qui montre, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'exagération. Si tu rapportes ces critiques de Ferry aux écologistes réels, qui, bon, voilà, c'est, statistiquement, je pense qu'il a raison, c'est parfaitement exagéré. Bon, mais c'est pas inutile de le rappeler. Et après, sur le fond, les arguments proprement dits, il y a effectivement aussi des objections intéressantes qui peuvent être faites à Ferry. Donc cette partie-là, voilà, ça on peut y aller. Bon, alors, et puis ensuite, on va faire une première pause et je passerai à la présentation un peu des autres thèmes hein, dans la suite de l'émission.
Across a lawn of stone. If you could all just chill out for a second. Oh, that's enough!
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. C'est Jeudi Noir qui se poursuit donc pour cette deuxième partie consacrée donc à un livre édité aux éditions Amsterdam, Nature et Politique de Fabrice Flippo.
On pourrait même dire Fabrice.
Oui, bon, je sais pas. Hein.
Si je suis l'orthographe, mais bon.
Bon, et donc Fabrice ou Fabrice, Flippo. Et voilà, donc on avait abordé dans la première partie, la première partie de l'ouvrage qui était consacrée au problème assez délicat des droits de la nature. Voilà, vous venez d'entendre sans ça donc un morceau de Ball,
issu de l'album Trouble Doll. Par contre, je ne sais pas quel morceau José avait choisi, parce qu'il est le 13. Donc, c'était Regan's Bush is on Fire. Donc, voilà. C'est adapté. Et puis, voilà, c'est encore un vieux groupe des années 90. Comme quoi, quand José se donne la peine, il trouve des choses qui datent de la bonne époque, musicalement. Donc, il va me tuer après l'émission. Ouais. Voilà, alors Jean-Mathias.
Ouais, donc alors, on revient donc sur ce bouquin de Fabrice Flippo, Nature et politique. On parlait à l'instant, tu disais, la question des droits de la nature dans les débats autour de l'écologie politique. Pour être un peu concret, on démarrait là sur la question de Notre-Dame-des-Landes, mais je pense que c'est pas inutile là, quand on a des textes qui sont très très théoriques et qui se veulent très très abstraits, d'essayer de ramener ça concrètement à un cas un peu précis pour essayer de voir ce qu'on peut classer à partir de ces concepts-là. Là, typiquement sur un cas comme celui de Notre-Dame-des-Landes, la question des droits de la nature, elle se pose très concrètement dans la lutte qui a lieu actuellement, c'est-à-dire... Est-ce que il s'agit de construire un aéroport qui, dans l'absolu, selon ses partisans, va savoir si c'est vrai, mais voilà, va créer de l'activité, des emplois, contribuer à développer une région, c'est-à-dire à rendre possible, voilà, des vies humaines avec un niveau de vie éventuellement correct sur ce territoire-là. Ça, c'est un discours qui est celui d'une certaine modernité, où effectivement l'homme est souverain sur la nature, il décide qu'un site est propice à telle installation, à tel type d'équipement et de développement économique et humain, et donc le politique derrière embraye en disant, en affirmant voilà, la souveraineté de l'homme sur la nature. Ce qui prime dans ce cas-là, c'est évidemment la valeur du développement humain en tant que tel, sur la nature qui est considérée comme une chose, une ressource qu'on peut
exploiter
à loisir en tant que telle, tout simplement. Et la question qui se pose notamment aux opposants de cet aéroport, alors je laisse de côté pour l'instant les arguments et les critiques politiques qui sont avancées, mais c'est notamment un certain nombre de recours qui sont déposés au nom d'une valeur intrinsèque du milieu naturel en question. Ça a des implications très concrètes. Lorsqu'on parle de cette question des droits de la nature, ici, il s'agit de protéger tel type de biodiversité, tel type de biodiversité liée à des terres humides, etc., etc. Et vous avez une batterie de recours qui ont été déposés devant diverses juridictions pour empêcher le déclenchement du chantier au nom, justement, d'une valeur qui serait ici directement celle du site en tant que tel et de la biodiversité qu'on y trouve. Donc c'est des questions qui sont très concrètes, la question de savoir si on peut effectivement réfléchir à la valeur intrinsèque qu'aurait la nature, alors valeur intrinsèque ou la valeur associée qu'elle aurait en tant qu'environnement de l'être humain. Oui. Voilà. Donc là, on a des débats qui se jouent là-dessus, mais qui sont des débats intéressants, il me semble, sur la question de la philosophie du droit, si on est très généraux, et puis aussi sur la question des luttes pratiques directes. Donc ça manque évidemment pas mal dans le bouquin de Flippo. Bon, mais c'est rare de trouver ça. C'est rare de trouver des bons philosophes, quoi, qui arrivent effectivement à la fois à articuler une réflexion abstraite à des cas un peu précis pour essayer de voir les enjeux qu'il y a derrière. Mais voilà, pour ce qui est de cette question-là. Alors, deuxième point, qui n'est pas inintéressant non plus, mais qui est, me semble-t-il, moins charpenté que le premier, c'est sur la question du caractère démocratique ou antidémocratique de l'écologie politique. Alors, qui est une question en fait un peu à tiroir. Alors, il y a d'une part la question que tu soulevais au départ, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement, au nom de la valeur de la nature et de la protection de l'environnement, est-ce qu'on peut pas justifier des formes d'autorité, voire éventuellement d'écofascisme, comme le dit Ferry, et puis comme disent un certain nombre de critiques de l'écologie, c'est-à-dire que la nature est posée comme quelque chose qu'on doit conserver, et du coup, l'homme doit limiter son activité, peut-être même de manière drastique, peut-être même qu'il va se donner tout un tas de règles et de contraintes nouvelles, et qu'il y aura derrière des flics verts qui sont censés faire appliquer ça et qui seront censés intervenir sur nos modes de vie, nos valeurs, nos finalités, etc. Bon, alors ça, c'est une manière de poser la question. Il y en a d'autres, c'est-à-dire que...
Parce que je pensais à un texte qui avait été publié dans l'Encyclopédie des nuisances. J'ai oublié le nom de l'auteur.
Rizel, peut-être, non ?
Il est mort.
Rizel n'est pas mort, à ma connaissance.
Moi, c'était le fils 2. Le fils d'un déporté célèbre. Ravière quelque chose, où il disait qu'en gros le constat écologique de base, à savoir que l'économie telle qu'elle fonctionnait actuellement, fondée sur la production, la consommation et la croissance infinie, en effet les prédictions de base il y a très très longtemps, et qu'en gros c'était déjà foutu.
Et du point de vue des ressources.
Du point de vue de des ressources, pas que des ressources, ouais. Du point de vue du développement, comment dire, de la pollution au niveau planétaire. Uh-huh. Et qu'à partir de là, si c'était déjà foutu, puisque les mesures n'avaient pas été prises, la surveillance politique de l'écologie ne signifiait qu'une seule chose, ce serait finalement la gestion de la rareté. Mmh. Dans un futur plus ou moins proche. Mmh. C'est-à-dire comment, en gros, on va se démerder quand on manquera de ressources et qu'on sera dans un état de guerre civile quasiment permanent du fait de cette absence de ressources. Mmh. C'était une critique un peu, tu vois, de genre post-situ. Mmh. C'est aussi à ça que je pensais en termes de...
Alors, sauf que là, dans ce cas-là, alors cette critique-là, elle est post-situationniste, mais elle s'inscrit, elle, à l'intérieur de l'écologie politique. Parce que ça... Cette critique-là, et c'est d'ailleurs un des arguments qu'oppose Flippo à ceux qui, comme Ferry, accusent les écologistes d'être des Khmers verts, comme on dit, hein, comme on dit parfois à droite, les fameux Khmers verts, là. La réponse que fait Flippo, c'est de dire que c'est sans doute, c'est bien gentil d'aller dénoncer les Khmers verts, mais que ce qui peut nous pendre au nez, et pour le coup, la critique dont tu parles, qui doit être de Semprin, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et en fait, la critique de Semprin, par exemple, mais que tu trouves effectivement dans l'Encyclopédie des Nuisances la plupart des textes, c'est de dire que c'est le libéralisme humaniste moderne tel qu'on le connaît actuellement qui nous conduit à cette forme de fascisme-là. Et à cette forme, effectivement, de guerre civile générale et de qui va nous obliger à gérer une pénurie et nous condamner à une guerre civile un peu globale. Et ça, d'une certaine manière. Alors, il y a une version, catastrophiste de ça, et que tu trouves parfois d'ailleurs dans l'Encyclopédie des Nuisances, hein, ça faut pas se le cacher. Oui. T'as une version catastrophiste qui, du coup, a tendance un peu à te bloquer toute forme de pensée ou de réflexion. Et même toute forme de discussion en disant voilà, et toute forme d'action aussi, ou alors te conduire à des espèces d'actions un peu à desperado, voilà, de toute façon c'est foutu, guerre à ce monde catastrophique, etc. etc. Bon, mais il y a une forme comme ça, mais l'argument, cela dit, il est fort, et cet argument là dont tu parles, il porte non pas contre l'écologie politique, mais contre effectivement les états libéraux développés, modernistes tels qu'ils existent actuellement.
Alors, ça dépend ce qu'on appelle l'écologie politique, parce qu'il me semble qu'il porte aussi contre les partis écologistes.
Alors, ça c'est le deuxième niveau où se pose la question. Est-ce que l'écologie politique est susceptible d'être un acteur du débat démocratique? Mais là, tu te places sur un autre point, c'est-à-dire que là, tu es plutôt dans le modèle de la démocratie parlementaire, libérale, telle qu'elle existe. Et là, la question se pose, effectivement, qu'est-ce que les écologistes ont à foutre là-dedans? Est-ce que ils sont toujours, voilà, est-ce qu'ils sont à droite, est-ce qu'ils sont à gauche? Est-ce que c'est une force d'appoint? Est-ce qu'ils ont vocation à grossir? Est-ce qu'ils ont vocation à assumer des responsabilités politique? Est-ce qu'ils ont vocation à développer un projet qui soit global? Bon, tout ça sont des questions qui sont, voilà, qui se posent, mais qui sont, c'est pas les mêmes que celles qu'on vient d'évoquer.
Oui. Hein.
Mais là, c'est sur la vocation démocratique parlementaire, en quelque sorte, du mouvement écologiste.
Pas seulement, il me semble. C'est-à-dire, en gros, on pourrait dire, indépendamment même de ce cadre parlementaire démocratique, en gros, à quoi servent-ils ou qui servent-ils? Et tu vois, quand on parle d'écologie politique, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Pour la plupart des gens, c'est les partis écologistes.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et donc après, on peut se demander, dans quelle dynamique sont-ils? Indépendamment même du jeu politique auquel ils peuvent participer pour briguer des Marocains et des petits fours.
Oui, tout à fait. C'est là que prend sens pour lui, alors c'est dans ce contexte-là, comme ça je suis un peu plus précis, l'espèce de double héritage un peu paradoxal que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois l'anarchisme et le centrisme. C'est-à-dire que il y a, comment dire, un caractère un peu insaisissable, effectivement, de ces partis écologistes, pour le coup, qui sont à la fois dedans, dehors, qui jouent les mouvements sociaux et en même temps la politique institutionnelle. Donc effectivement, il y a cette contradiction ou cette difficulté-là, en tout cas. Alors, c'est pas quelque chose, il faut...
Ou qui, comme Cohn-Bendit, soutiennent l'OTAN dès qu'ils le peuvent.
Ou qui, voilà, par exemple. Ou même le capitalisme en tant que tel. Cohn-Bendit, maintenant, il le dit explicitement. Et c'est tout. Alors, mais j'en parlerai peut-être encore plus tard. C'est sur la question de la possibilité d'une économie écologiste. Et effectivement, la question de savoir comment l'écologie politique se situe par rapport au modèle dominant, que ce soit celui du marxisme ou du libéralisme économique. Est-ce qu'il y a réellement une rupture, ou est-ce qu'il se rattache plutôt à l'un ou plutôt à l'autre? Ce qui n'est pas une question simple du tout non plus.
Oui,
ça.
Parce que la question de savoir si le marxisme, est compatible avec l'écologie. écologie n'est pas non plus évidente.
Ah, ah bah ça c'est, ou alors elle l'est trop.
Ou alors elle est trop.
Voilà. Mais on, ça, on en parlera après, ouais, cette question-là, parce que c'est encore autre chose. Ça, c'est plus, on est plus sur les contenus, hein, des partis, des programmes écologistes. Là, en fait, pour vous, c'est la contradiction là, qui est liée aux formes d'engagement partidaire, donc les Verts, par exemple, ou d'autres partis écologistes, elle n'est pas vraiment résolue, hein, dans le bouquin de Flipeau, faut le dire. Lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de penser, en fait, cette position bizarre, et un peu cette tension-là, comme quelque chose qui est finalement quelque chose qui peut se revendiquer d'un certain nombre d'auteurs ou de références philosophiques, et d'une certaine manière d'un certain héritage aussi de 68. De 68 qu'il caractérise de manière très très générale comme une espèce de moment où sont mises en avant les revendications subjectives contre les revendications objectives, qui étaient celles traditionnelles du mouvement ouvrier, communiste, etc.
Oui,
alors
très, très haut.
Là, on est très très haut, hein, on est vraiment du point de vue de Cyrus. C'est par hasard, parce que d'après lui, et c'est tout au long du livre, finalement, la grande figure tutélaire qui permet, voilà, de penser l'écologie politique, c'est Sartre. Et la critique de la raison dialectique, donc un livre des années 50-60, dans laquelle il s'agit de penser finalement une espèce de, comment dire, alors de manière très très abstraite, il faut le dire, le rôle et le pouvoir des minorités agissantes au sein des sociétés humaines. Hein, minorités agissantes qui ne sont pas pensées comme des avant-gardes politiques, c'est un peu le modèle plutôt marxiste, léniniste, hein, où le parti est l'avant-garde qui va emmener ensuite la classe porteuse de l'avenir de l'humanité. Donc là, Sartre, en fait, décentre tout ça, c'est-à-dire que voilà, il y a des minorités actives qui exercent une activité dynamique sur le pratico-inerte, c'est-à-dire les masses qui attendent et qui, dans certains moments favorables, peuvent entrer en fusion et voilà, et déplacer en quelque sorte les hiérarchies en gagnant en autonomie, en fait, en faisant gagner les individus en autonomie. Un schéma qui est très général, qui est un peu arbitraire à mon sens, parce que bon, la référence à Sartre, elle est intéressante. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Il y a d'autres auteurs. Bon, ici, Jaime Castoriadis, par exemple, qui est un auteur avec qui, par exemple, qui a co-signé un bouquin avec Cohn-Bendit après 68. Donc, qui est peut-être une référence, peut-être un peu encore plus directe, ou une figure tutélaire peut-être encore plus pertinente. Je ne sais pas trop.
Peut-être trop marxiste.
Ouais. Enfin bon, en même temps.
Ça colle pas trop à sa thèse.
Oui, enfin, le Castoriadis de l'institution imaginaire, il est plus du tout marxiste, hein, oui, quand même. Hein, c'est plus celui de socialisme barbarie. Donc, je laisse de côté ça. On a un peu l'impression qu'il y a une part d'arbitraire aussi, voilà, dans ce choix-là chez lui. Mais ce qui s'explique aussi, à mon avis, par le paysage français, parce que un des théoriciens de l'écologie politique en France, c'est André Gorce, qui est un disciple direct de Sartre.
Collaborateur des temps modernes.
Et oui. Et donc, qui est un type intéressant, hein. Donc, essayer de penser justement, et qui est intéressant et qui en même temps a toutes les ambiguïtés de l'écologie politique qui sont signalées. C'est-à-dire que c'est un type qui commence par, avec un titre, bon, tonitruant, faire ses adieux au prolétariat. Donc, il commence d'abord marxiste classique comme tout le monde, puis après 68, il fait ses adieux au prolétariat, puis après, il va revenir à une espèce de modèle un petit peu comme celui-là, en remettant à distance les problématiques écologistes. Donc, c'est un type qui est à la fois intéressant et qui en même temps qui a cette part d'indécision, voilà, et d'incertitude qui est liée finalement à toutes les formes d'engagement politique des écologistes, hein. Donc il y a cette référence à Sartre, voilà, qui est un petit quand même un peu abstraite, faut quand même le dire. Et alors l'intérêt de cette référence, c'est qu'elle lui sert un peu de paravent contre justement le, bon, parce que c'est pas, on l'a pas choisi par hasard ce bouquin-là non plus. Cette référence à Sartre lui sert de paravent contre l'écologie de centre droit, en fait, hein, c'est-à-dire contre l'autre hérédité, c'est-à-dire
contre Brice Lalonde,
contre Brice Lalonde tel qu'il est devenu, parce que Brice Lalonde ne part pas du centre,
oui,
hein, il part plutôt des libertaires et des autogestionnaires, hein, il est plutôt au départ. Mais effectivement, il y a le centre. Non, il pense, bon, bah, évidemment, là, aujourd'hui la figure, c'est Corinne Lepage ou des gens comme ça, au moins dans le paysage, oui, institutionnel. Et du point de vue des idées, celui qui met en avant et qui va charger, il charge peut-être un peu la mule, mais bon, ça, il faudra regarder de plus près. C'est un certain Dominique Bourg, pour ceux qui connaissent. Dominique Bourg est un universitaire, lui aussi, hein, là, on n'est pas dans les militants de base, hein. C'est un universitaire qui exerce en Suisse, si j'ai bien compris, qui vient de sortir une anthologie de la pensée écologiste. Donc, c'est un des auteurs qui compte, si vous voulez, un petit peu, entre guillemets, dans tous ces débats-là. Et qui, lui, a fini par, par jeter les masques, hein, et effectivement assumer une position de centre droit qui pour le coup est très catastrophiste. C'est-à-dire qu'il s'agit cet écologisme de centre droit, comme à la Dominique Bourg, c'est au fond une espèce de libéral inquiet, de libéralisme inquiet. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est le libéral inquiet des conséquences de sa propre position. Donc il s'agit surtout de pas réviser le libéralisme politique et économique, hein, hein, mais de bien comprendre les enjeux et les difficultés que le libéral un peu honnête va avoir à affronter, quoi. Hein. Donc on est là-dedans. Donc on change pas le logiciel. Donc on garde par exemple un projet qui est celui de croissance et développement, des forces productives à l'infini, bien évidemment. On garde ce projet-là, mais on a cette petite, quand même inquiétude. Bon, je caricature un peu, mais il y a de ça. Et du coup, évidemment, la référence à Sartre par rapport à ça, la pensée de la, voilà, d'être en continuité avec l'émergence des nouveaux mouvements sociaux, beaucoup plus atomisés. Alors bon, il y a aussi des références incontournables à Deleuze, Guattari, voilà, les minorités conscientes, la micropolitique, etc. Toute une série de gimmicks un peu des années 70, hein, je sais pas si qui servent un peu, voilà, de figure tutélaire à ce mouvement-là. Donc ça lui sert, voilà, de paravent pour penser une espèce d'écologisme militant inscrit dans un écologisme de transformation sociale, on va dire, si je reste très général, contre cet écologisme de centre droit qui est une forme de libéralisme inquiet. Voilà. Donc ça va pas beaucoup plus loin que ça sur cette partie, donc un peu moins convaincante à mon avis, pas inintéressante quand même. Voilà.
Donc une pause musicale et on reprend pour la troisième et dernière partie.
Yeah.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous venez d'entendre un morceau d'un groupe français d'Angers, extrêmement célèbre et même connu aux États-Unis, paraît-il. C'est les Tugs. Donc voilà, c'est un morceau qui s'intitule, d'après la régie, pa-pa-pa-pa, voilà. Donc vous avez le titre, par contre, bon, j'ai pas eu le titre de l'album, c'était peut-être Popopopo. Allez. Mais nous, ici, on adore les Tugs. Donc, à partir de là, vous en passerez d'autres. Alors, José me dit d'arrêter de bavarder et de laisser la parole à Jean-Mathias. Quel tyran, ce José. Encore un écolo-fasciste. Donc, Jean-Mathias...
J'avais pas fait gaffe qu'il était écolo.
Jean-Mathias, tu as 5 minutes pour nous exposer 2-3 trucs. Sinon, José va rentrer dans le studio en hurlant.
Ouais. Alors, bon, 5 minutes, bah, ça va être rapide. Il y a 4 parties dans le bouquin. Donc, ça, comme ça va être simple. Je vais pas vous parler de la dernière. Et ça tombe très bien parce que je pense que je suis pour le coup profondément en désaccord avec cette dernière partie qui est une partie de conclusion et qui s'intitule Un monde réenchanté pour l'interrogation et qui s'interroge sur les rapports entre l'écologie, le projet écologique, écologiste en politique et la religiosité. Hein, le rapport de la science à la science et à la religion, le double rapport de l'écologie à la science et à la religion. Et là, pour le coup, je crains d'être profondément en désaccord. Je laisse ça de côté parce que ça enlève pas l'intérêt des trois premières parties avec voilà les réserves que j'ai aussi mises. Mais encore une fois, c'est un livre qui peut se lire et qui d'une certaine manière est pas inutile à lire. Alors la troisième partie, elle s'intitule Une économie écologique pour l'interrogation. Et donc elle pose la question de savoir si l'écologie politique est, oui ou non, porteuse d'un nouveau modèle, je ne sais même pas s'il faut dire de développement, mais en tout cas d'une nouvelle manière, d'un nouveau projet politique. Voilà. D'un nouveau projet politique qui ne serait pas celui de la modernité libérale, pour faire vite, c'est-à-dire de l'héritage de la philosophie des Lumières, le progrès, les sciences et les techniques progressent continuellement et elles peuvent servir de locomotive au progrès de l'humanité dans les autres domaines, le progrès politique, moral, artistique éventuellement. Et c'est par le progrès scientifique et technique que l'humanité affirme à la fois sa souveraineté sur la nature et sur elle-même et se développe sans qu'il y ait de limites a priori à ce progrès humain là. Donc voilà, ça c'est le modèle du progressisme libéral. L'autre modèle qui est voilà, alors bon, on rentre pas dans les débats, est-ce que c'est un sous-groupe, est-ce que c'est un héritage, que c'est une rupture, etc. Mais c'est le modèle marxiste, c'est-à-dire l'idée, une approche plus matérialiste du progrès humain, avec l'idée que au fond le capitalisme lui-même est l'étape ultime de développement des forces productives, donc c'est-à-dire des capacités techniques que l'homme a de produire ses moyens de subsistance, et en même temps capacité technique et aussi capacité humaine, c'est-à-dire enfin le travail humain et la classe ouvrière, le prolétariat sont eux-mêmes des forces productives qui se développent considérablement sous l'effet des impératifs de rentabilité du capital investi, et le moteur des progrès humains, c'est celui-là. Alors, là où c'est compliqué, c'est qu'il y a un certain nombre de points d'accord, finalement, entre ces deux modèles de développement, qu'il s'agisse du modèle de développement libéral ou le modèle de développement marxiste au sens large, communiste, je sais pas trop comment il faut dire, c'est que les deux sont d'accord pour dire que le salut de l'humanité, il passe par la croissance et le développement économique.
Les moyens de production, de la croissance,
de la consommation. Alors, après, on peut discuter sur les finalités, les vrais besoins, les faux besoins, etc. Bon, mais il n'empêche que pour que l'humanité progresse et pour qu'elle se développe, et qu'elle, finalement, gagne en contrôle de la nature et en contrôle d'elle-même, eh bien, il y a une solution, c'est la croissance économique. Le développement des forces productives, c'est-à-dire, par exemple, le développement industriel et la production de masse céréalisée, etc. Bon, alors, la question à 10 balles, c'est de savoir si l'écologie politique est, oui ou non, sortie de ce cadre-là, en quelque sorte, dans la mesure où elle se présente d'emblée, et ça, on peut difficilement le nier, comme une critique à la fois quantitative et qualitative, on pourrait dire, finalement, de la notion de croissance.
C'est-à-dire que depuis au moins les années 70, mais ça remonte à sans doute au-delà, l'écologie, lorsqu'elle entre en politique, elle dit, bah, nous, en tant qu'écologistes, on a quelque chose à dire sur ce modèle de développement-là, qui est partagé à la fois par les libéraux et par les marxistes, à savoir que l'avenir de l'humanité passe par la croissance. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On pense qu'il faut consommer moins et consommer mieux, si je résume, des slogans qui traînent un peu de ce côté-là. Et alors, toute la question, c'est de savoir, effectivement, dans quelle mesure c'est possible, dans quelle mesure c'est autre chose qu'un slogan. Parce qu'évidemment, ça suppose derrière une réorganisation de la vie sociale qui est quand même profonde, et qui, pour le coup, alors, donc, y a le problème en termes de programme politique qui se pose, et il y a un problème qui est peut-être encore plus épineux, à mon avis, et pour le coup, moi, je vois pas de solution crédible pour l'instant, c'est celui de savoir, à supposer qu'on ait un programme, effectivement, de sortie de la croissance, ou alors il faut qu'on s'entende, dans l'écologie politique il y a aussi différentes tendances. Vous avez des croissants, des décroissants, ceux qui effectivement appellent à sortir de la croissance et appellent à une austérité volontaire et collective. Le modèle, celui qui a le vent en poupe actuellement, c'est par exemple Pierre Rabhi, dont il est beaucoup question actuellement, qui a monté un village effectivement alternatif et coopératif en Ardèche, qui fait des conférences à travers le monde entier, qui a une audience certaine, y compris médiatique. Ah oui,
Il doit avoir une empreinte carbone énorme.
Il doit avoir, alors je sais pas comment il se développe, parce que ça c'est effectivement c'est de la plaisanterie de mauvais esprit, mais il est effectivement très demandé. Il a une certaine séduction. C'est un type effectivement qui a réfléchi à la production écologique, agricole, mode de consommation, l'éducation, etc. Plein de choses très intéressantes du point de vue des recherches d'alternatives concrètes. Bon, alors il y a cette tendance-là qui est très forte. Les gens chez Latouche, etc. Bon, et puis il y a aussi les partisans d'une croissance verte, comme on dit. Alors là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une transformation qualitative de la croissance. Il s'agit de produire différemment, de produire pour satisfaire des besoins réels ou authentiques qui seraient non polluants, non dangereux, respectueux de l'environnement et donc au final respectueux de l'être humain lui-même, etc. Donc ces questions-là sont compliquées. Mais, et je vais terminer là-dessus, parce que le bouquin présente là pour les problèmes sans leur apporter de solution, mais au moins il a le mérite de les poser à peu près clairement. Le problème qui reste complètement entier, c'est celui de savoir, à supposer qu'on ait un programme clair en politique, quelles forces sociales vont être susceptibles de porter ce programme-là. C'est-à-dire que il y a une difficulté. Évidemment, on peut être partisan d'un plus grand temps libre, d'une baisse du général du temps de travail, et puis d'une désindustrialisation contre la pollution des terres, des sols, et puis Mais ça, c'est pratique. C'est évidemment plus facile à soutenir quand on habite en centre-ville et que ça change absolument rien à notre mode de vie. On peut lutter contre la bagnole quand il y a des stations de métro à 5 mètres de chez soi. Ça coûte moins cher que quand effectivement on est au milieu de la cambrouse. Alors, donc, il y a cette question-là. Et la grosse différence, me semble-t-il, et un des gros points d'interrogation, alors, c'est pas la peine de fermer non plus la porte là-dessus, mais c'est que, autant le projet socialiste, communiste, libertaire, il est parti et il s'est appuyé sur une force sociale qui était parfaitement identifiable, à savoir le prolétariat ouvrier, le prolétariat industriel. Autant l'écologie politique, si elle a les ambitions qu'elle déclare avoir, il lui reste effectivement à trouver les forces sociales qui seront susceptibles de porter ça, y compris contre ceux qui vont s'y opposer, parce qu'elles n'ont aucun intérêt ni à la décroissance, ni à la croissance verte.
C'est pas gagné. Voilà, donc Jeudi Noir s'arrête pour aujourd'hui et on se retrouve dans 2 semaines. Thank you.
Thank you.